Bonjour à toi, Warrior, qui nous écoute depuis peu ou depuis toujours. Yes Podcast a besoin de toi pour continuer d'exister. Et oui, on en a parlé dans l'épisode 52, depuis 2 ans, l'existence de ce podcast repose sur le travail gratuit des femmes, en l'occurrence nous. Vous êtes plus de 10 000 auditeuristes à nous écouter chaque mois. Si vous mettez tous 1 euro, ça peut nous changer la vie. Et si tu ne peux vraiment pas, n'hésite pas à partager notre appel ou à nous mettre une pluie d'étoiles sur ta plateforme de podcast préférée. Le lien de la cagnotte est en description et sur notre Insta. Elle s'appelle De la force pour les warriors. Dans tous les cas, merci à toi et gros love.
Yes!
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Bonjour à vous, nous revoilà pour un nouvel épisode de Yes, le podcast de Warrior. 2 fois par mois, on célèbre les victoires de meufs contre le sexisme et ça nous fait un bien fou. Je suis Anaïs et me revoici toujours en compagnie de mes 2 féministes séparatistes complotistes. Salut Marga.
Hello.
Salut Elsa.
Coucou.
Et dans cet épisode, on va parler des warriors nord-africaines. Elles se sont trouvées, malgré les rôles auxquels on les assignait, elles ont décidé d'être elles-mêmes envers et contre tout stéréotype ou pression. Elles vivent leurs identités multiples comme elles l'entendent et calment tous ceux qui voudraient les faire rentrer dans une case. Bref, les warriors de cet épisode vont faire briller tes yeux et te donner du courage. Et pour parler de ce vaste sujet, nous avons une invitée avec nous en studio. Tu la connais sûrement parce qu'elle anime un podcast dédié aux identités multiples. Elle vit comme nous à Marseille et c'est plus qu'une consoeur, c'est une amie. On a décidé de faire cet épisode en partenariat, en crossover, comme on dit dans le milieu.
Yeah.
J'ai donc le plaisir de vous présenter la créatrice du podcast Nana. Coucou Nadia.
Salut, je suis très très heureuse d'être avec vous.
Ben, on est contente que tu sois là. On est ravis de faire cet épisode en tout cas avec toi. Et pour commencer, ben, évidemment, on va d'abord te présenter un peu pour nos auditeuristes qui ne te connaîtraient pas déjà. Donc tu as très bientôt 30 ans, tu vis à Marseille, tu as grandi à Avignon, ta famille est marocaine et tu es la première de ta famille à naître en France. Et depuis un peu plus d'un an, tu as créé et tu animes le podcast Nana, donc N-A-3-N-A-3. Ce que ça veut dire en fait, c'est la traduction du mot menthe en arabe latinisé, disons, écrit avec l'alphabet latin. Je pense qu'on a tous et toutes des images et odeurs en tête à l'évocation de ce mot et finalement c'est ce que tu proposes dans ce podcast. C'est un moment de douceur, de partage, de rencontre et d'échange super bienveillant qui fait du bien comme un câlin. Et dans ce podcast, tu pars parfois de ton propre témoignage, mais aussi d'expériences d'autres personnes d'origine nord-africaine, dans un contexte français principalement. Les sujets abordés, ils sont évidemment multiples. On y parle évidemment de racisme, de sexisme, mais aussi de thématiques plus particulières au fait d'avoir une double, voire triple culture. Donc, du ramadan confiné, au colorisme, en passant par la dévalorisation de la langue arabe. On découvre toute la complexité du fait d'être nord-africaine ou nord-africain en Europe. Globalement, j'ai l'impression que dans ton podcast, il s'agit beaucoup de résistance, mais aussi de réconciliation avec soi-même et sa propre complexité. Est-ce que je me trompe ou comment toi, tu résumes le ton du podcast ?
C'est exactement ça. Je vais garder ce passage et le donner, le diffuser aux gens quand ils me poseront des questions sur le podcast et moi. Mais c'est exactement ça. Oui, j'ai voulu utiliser le mot nerner, qui veut dire donc menthe, comme tu dis, parce qu'il évoque à toutes et tous quelque chose, qu'on soit nord-africain ou pas. Et je voulais effectivement, en valorisant les histoires complexes de chacun et chacune, faire le lien entre les gens et se rendre compte qu'en fait, on a plein de similitudes et de différences qui peuvent cohabiter.
Quand on s'est rencontrés, toi et moi, tu projetais de faire un film documentaire sur cette question. Et finalement, pour notre plus grand bonheur, ça a pris la forme d'un podcast. Je relève en tout cas que ça fait longtemps que tu as envie de parler de ces sujets-là, que tu as énormément cherché quel angle choisir, quel média aussi. Et le résultat de cette longue réflexion, ben, il est là. Ton podcast, il est génial. Est-ce que pour toi, c'est une victoire d'avoir produit tout ce contenu ? Qu'est-ce que ça t'apporte à titre personnel ?
C'est une victoire, mais c'est avant tout une thérapie. C'est ma manière de guérir de plein de choses dont on va discuter dans cet épisode. C'est aussi effectivement une fierté, une victoire d'arriver à dire toutes ces choses de façon libre, sans qu'on contrôle ma parole, avec ma propre voix et nos voix à toutes et tous. Donc ouais, je suis très heureuse et très fière. C'est pas rien de faire cet épisode avec vous, parce que vous êtes quand même mes premières rencontres à Marseille, les premières femmes que j'ai rencontrées dans cette nouvelle ville, nouvelle vie pour moi. Et vous m'avez inspiré et donné envie d'oser. Donc c'est d'autant plus important de faire ce podcast sur les warriors nord-africaines ici avec vous trois. Et on ne va pas pleurer pendant cet épisode. Non.
D'ailleurs, j'ai oublié mes mouchoirs.
Assistant. On est très content de t'accueillir.
Ouais,
aussi.
C'est trop cool. Merci.
Bienvenue. Eh bien, sans plus tarder, on va présenter notre première warrior et c'est toi, Elsa, qui nous la présente.
Oui, alors la première warrior, c'est Sophia. Sophia, elle est psychologue depuis 4 ans auprès d'adolescents autistes et elle a subi et été témoin d'un certain nombre d'agressions au travail. Alors, trigger warning, islamophobie, pression psychologique, voilà, c'est un peu hardcore. Je vous laisse écouter.
Au départ, c'était pas vraiment facile. Avant d'arriver à ce poste, j'avais eu plusieurs entretiens, dont deux qui m'ont particulièrement marquée. L'un où on me demandait ce que je pensais de la cantine halal, et l'autre où la grande question était ce que je pouvais penser du port du niqab. Et lorsque, en fait, je répondais que ça avait strictement rien à voir avec le poste pour lequel je postulais, on me répondait que si, en fait, que mon avis était important, qu'il était important que j'ai des valeurs de laïcité bien ancrées, étant donné que on parlait ici d'un travail qui est dans le milieu du social et que ici on vote à gauche et que par définition il fallait que je sois quand même porteuse d'une laïcité assez forte, une laïcité à laquelle en plus je n'adhère pas et je trouve assez drôle que ces personnes se revendiquent de gauche avec de telles valeurs. Mais enfin, passons. Je me retrouve alors là. Pendant 4 ans où le climat était assez lourd, j'ai subi et été témoin d'un certain nombre d'agressions au travail qui vont du plus banal au pire, du mépris intellectuel jusqu'à, pour la plupart du temps, de la négrophobie, étant donné que l'islamophobie était souvent tue lorsque j'étais présente à l'intérieur des réunions. Le mépris pouvait aller à ce qu'on me demande « Est-ce que tu connais le féminin de fraternité ?» Et moi qui réponds n'étant pas sûre, et toujours pas sûre de ma réponse d'ailleurs, « Sororité ?» Et là, ma directrice qui s'exclame en explosant de rire « Et toi, tu connais ce mot-là, toi ?» Et c'était pareil, quand je pouvais confondre un mot avec un autre et qu'elle s'octroyait le droit de m'excuser devant les foules en expliquant « Excusez-la, la pauvre !» Elle est complètement acculturée. La plupart des salariés et la plupart des jeunes qui sont accueillis sont soit noirs, soit arabes et pour certains d'entre eux, asiatiques, ceux pour lesquels elle parle de la triade qui n'a de cesse de nous faire chier. La directrice était avec moi un jour en train d'éplucher des CV pour le poste d'éducateur. Et en fait, il y avait une candidature donc d'une éducatrice. Et la directrice était morte de rire devant un CV en me disant « Non mais tu te rends compte, c'est d'un ridicule. Elle a quand même participé à la chorba pour tous, je sais pas quoi. » Et en fait, c'était juste plus du tout possible ce mépris dans ces moments-là, quoi, dès qu'il s'agissait de ce type de candidature. Depuis quelque temps, j'ai un sentiment assez fort le matin en prenant le métro, un sentiment de honte, et de faire partie d'un monde qui ne me convient pas et auquel je ne veux plus jamais que mon nom soit associé. Et bien là, je me suis vue poser ma démission. Et ça me fait un bien fou, je me sens libérée.
Tu m'étonnes, mais ouais. C'est fou.
Bravo Sophia.
Donc bon, je vous passe les détails, hein. J'ai coupé pas mal de choses parce que c'était un peu violent et très long. Mais bravo vraiment Sophia pour ton courage déjà d'avoir tenu aussi longtemps.
C'est vraiment de la survie, quoi.
Ah oui. Et je pense que, elle le faisait aussi beaucoup parce que, par devoir un peu par rapport au travail qu'elle faisait, hein, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes qui sont en fait non-verbaux, c'est-à-dire qu'ils peuvent même pas, en plus, exprimer ce qu'ils ressentent. Donc du coup, c'était une situation vraiment de violence à la fois envers les salariés et envers les jeunes qui sont censés protéger. Et je précise aussi un épisode qu'elle m'a raconté, que j'ai coupé pour des raisons de timing. Hein. Mais en gros, sa directrice, elle a déjà eu des menaces de procès de la part d'autres salariés, suite à quoi elle a dit à Sophia « Rappelle-moi de ne plus jamais embaucher de black ».
Ouais, c'est bien, comme ça, on évite de se remettre en question. Hein.
Et donc, oui, voilà, c'est ça. Et du coup, en fait, à partir de là, Sophia, elle a décidé, dans la mesure du possible, et parce qu'elle était la seule cadre racisée de l'établissement, de mener, en fait, une politique de discrimination positive, c'est-à-dire qu'à partir de là, à chaque fois que... Enfin, déjà, elle faisait en sorte d'être dans les entretiens d'embauche, etc., dans les processus d'embauche le plus possible, et en fait, de faire en sorte qu'à CV égal... elle faisait le maximum pour faire pencher la balance du côté du candidat ou de la candidate racisée, pour justement inverser la tendance et que le souhait complètement tordu de la directrice ne soit jamais exaucé, à savoir d'être entre blancs parmi le personnel encadrant, quoi.
Mais on est au-delà du tordu, là. C'est du racisme complètement assumé. Enfin, c'est...
Et institutionnalisé, quoi.
Voilà.
Et dans un établissement, alors je ne sais pas si c'est un établissement public ou semi-public, enfin, quel est le statut exact, mais enfin, on est quand même dans le social, quoi. Donc, et comme elle disait, la plupart des jeunes qu'ils accueillent, c'est des afro-descendants ou des enfin, voilà.
C'est quand même impressionnant que ça leur vienne pas à l'esprit que peut-être il faudrait arrêter d'être entre blancs dans ce genre de structure-là. Je sais pas.
Et de gauche. Hein.
Oui, surtout.
Surtout, c'est bien de préciser.
La plus belle des gauches.
Gauche, laïque. Trop rien dire la gauche en ce moment, mais.
Ouais. C'est assez désespérant. Mais bon, voilà. En tout cas, bravo pour d'avoir réussi à démissionner et vive la libération de.
C'est clair.
De ça, parce que c'est hyper violent, vraiment.
J'ai quand même envie de la remercier d'avoir eu la force de représenter justement ces différences dans ce milieu qui avait l'air très compliqué et d'avoir eu le courage justement de faciliter la voie à d'autres personnes, comme tu dis, en favorisant des CV. Parce que sans ces personnes c'est qui ça. Donnent d'eux-mêmes et d'elles-mêmes, pour ça, on n'avancera jamais. Donc merci pour sa force et tu as bien fait de t'écouter, de démissionner. Mais voilà, juste félicitations pour tout ça parce que j'ai pas tout le temps la force, moi, de faire ce que je fais et je sais à quel point ça nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup de résilience.
C'est clair.
Oui, ouais, j'espère qu'elle trouvera un job, un poste qui lui convienne mieux.
Avec une équipe
saine. Je crois qu'elle a une promesse d'embauche, là.
On te souhaite le meilleur, en tout cas.
Exactement.
Et maintenant, je vais vous présenter notre seconde warrior. J'ai le plaisir de vous présenter Nadia Atroubi Safsaf. Et avant de dire quoi que ce soit, je la laisse parler.
Ma plus belle victoire, c'est d'être devenue celle que je suis devenue. Je dis souvent que je me suis construite en opposition à, parce que longtemps, on m'a dit que j'arriverais à rien, que j'étais nulle, que j'étais bête. Et quand je dis « on », c'est l'institution scolaire, c'est les voisins, certains voisins à Paris. Une dame, je me rappelle, qui avait dit à ma mère qu'elle s'inquiétait de mon avenir parce que j'étais l'aînée, qu'elle parlait mal français, qu'elle ne savait pas lire, que mon père ne savait pas lire. Qu'elle s'inquiétait pour nous, tout simplement comme une mère s'inquiète pour ses enfants. Et elle lui avait dit cette phrase magique. Mais vous savez, on aura toujours besoin de femmes de ménage en France. Et j'étais là, j'ai entendu cette phrase. Et cette phrase, ça a été un aiguillon dans tout ce que j'ai pu faire. C'est-à-dire que quand j'ai voulu relâcher, j'étais fatiguée, que j'en avais marre. Cette phrase, elle revenait en tête et je me disais non, 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 non. Et je continuais à me battre et à me relever. Et je ne suis pas talentueuse, je ne suis pas... pas la plus talentueuse, hein, mais c'est juste que j'ai une force de travail et que je lâche rien. C'est-à-dire que j'ai envie de baisser les bras comme tout le monde. Il y a plein de moments où je baisse les bras et je me remotive et je me dis non, Nadia, il faut pas lâcher l'affaire, il faut pas lâcher l'affaire. Et voilà, et ça m'a menée à être aujourd'hui rédactrice en chef d'un magazine, de diriger une rédaction, de faire une thèse en sociologie, de monter une maison d'édition, de publier des livres aussi dans d'autres maisons d'édition. Donc voilà, je me suis battue et je me bats encore. Ma plus belle des victoires, c'est que je ne suis pas femme de ménage.
Merci Nadia pour ton témoignage et bravo pour absolument tout, hein, l'ensemble de ton œuvre, puisque ouais. Du coup ta vie est une œuvre, là, on peut clairement le dire. Moi je suis hyper choquée par cette phrase, quoi. On aura toujours besoin de femmes de ménage en France.
Quel est le rapport avec cette petite fille qui est en face de toi, en fait ? Enfin...
Quand on voit ça dans la tête d'une mère et de sa fille, bon, c'est d'une violence incroyable. Et ça démontre vraiment à quel point, très jeune, on assigne les femmes, et plus particulièrement les femmes nord-africaines, à des rôles très particuliers et très limités. Donc avant toute chose, bon, on envoie plein d'amour et de soutien à toutes les femmes de ménage qui nous écoutent. On envoie aussi de grosses tatanes à toutes les personnes qui les méprisent alors qu'elles font un boulot essentiel, super précarisé, qui abîment leur santé. Donc le minimum dans ces cas-là, c'est pas le mépris, hein, non. C'est, le minimum, c'est de dire merci et d'améliorer les conditions de travail. Mais pour en revenir à Nadia, donc, qui était déterre à ne pas suivre la seule route tracée pour elle, elle est devenue rédactrice en chef du magazine Le Courrier de l'Atlas. Elle monte sa propre maison d'édition nommée Bande Organisée Édition.
Ah, j'adore !
Elle mène sa thèse en sociaux, elle a publié je ne sais pas combien de bouquins, et le tout en ayant une vie de femme et de mère de 4 enfants. Donc voilà qui devrait calmer la voisine aigrie. Et du coup, j'ai un mini quiz pour vous. Est-ce que parmi vous, une de vous sait à qui on doit cette phrase dégueulasse, je cite, l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire.
Ah, Sarkozy, oui, à Dakar.
Oui.
Elsa, la maîtrise. C'est bien à Nicolas Sarkozy qu'on doit cette phrase. Et en fait, c'est pour lui répondre que Nadia a écrit son dernier livre intitulé Frère de l'ombre, qui est sorti cette année. Donc déjà, la meuf répond à Sarkozy sous forme de livre. C'est pas un tout petit peu badass, quoi. Enfin,
c'est clair.
Parce qu'il sait lire, Sarkozy ?
Ah, va savoir.
C'est pas sûr.
Mais il a sûrement quelqu'un qui peut lui lire, hein. Ça, c'est pas un problème. Donc je la cite, lors d'une interview, elle disait « Avec tout ce que l'Afrique a produit en termes de réflexion, de travaux en histoire, en anthropologie, comment pouvons-nous laisser dire ça ?» Il fallait y répondre. Depuis des années, j'y réponds depuis ma fonction de rédactrice en chef du Courrier de l'Atlas, mais je voulais aussi lui répondre par le roman pour dire combien ces déclarations sont fausses. Fin de citation. Donc, elle revient sur l'histoire des tirailleurs, notamment sénégalais, qui étaient souvent enrôlés de force dans l'armée française et qui se sont battus et sont morts pour un pays qui ne les a jamais respectés et encore moins remerciés, vous vous en doutez. Elle évoque donc des épisodes totalement effacés de l'histoire qui pourtant changent totalement notre façon de la comprendre. Je vous invite donc à découvrir ce bouquin. Je vous mettrai bien sûr des liens dans la description de l'épisode. Et je vous invite à suivre le travail de Nadia parce que non seulement elle brille dans l'obscurité, mais en plus elle remet de la lumière partout où nous l'avions éteinte. Bravo madame et merci beaucoup.
Bravo, bravo, bravo.
Bravo !
Une inspiration. C'est
total.
Merveilleux ce qu'elle
Quelle
fait.
Force de vie, quoi. C'est vraiment impressionnant. Et toi, Nadia, de ton côté, est-ce qu'il y a justement des récits, des bouquins ou en tout cas des ouvrages qui t'ont permis d'apprendre sur ta propre histoire et peut-être t'ont fait changer de regard ? Est-ce qu'il y a comme ça des productions d'autres personnes qui ont des parcours peut-être similaires ou en tout cas parallèles qui t'ont bouleversé, qui t'ont...
La dernière personne où vraiment je me suis dit c'est fou, on vient du même endroit et tout, c'était Nesrine Slaoui,
ah oui.
qui a donc écrit son livre Illégitime et qui vient du Vaucluse comme moi.
Ah, en plus.
Et dans son livre, elle parle de lieux que j'ai côtoyés, elle parle de l'université d'Avignon, j'ai fait mes études là-bas, elle parle du fait d'avoir fait des grandes études et de trouver personne dans sa famille qui a fait la même chose, de quitter la maison familiale. Enfin, vraiment, je me reconnaissais dans chacune de ces lignes. Et en plus elle est plus jeune que moi, donc je me dis ouais, c'est trop bien, on y a la relève et tout. Enfin ouais, ça m'a beaucoup inspirée et en ce moment je lis plein de livres de femmes romancières d'origine nord-africaine. Il y a Faïza Guen, il y a Fatima Das, il y a plein d'autres personnes qui sont qui donnent de la force et qui te font réaliser que tu n'es pas seule. Et c'est ça qui est important dans cette émergence d'écrivaines. C'est que tu n'es pas seule et ton histoire est légitime et elle peut prendre plein de formes et on est complexe et c'est merveilleux. Ouais.
Et que chaque personne peut trouver sa place dans les imaginaires collectifs.
Complètement.
Soit, en fait. Bien, et bien écoute, bravo encore Nadia.
Hein, bravo.
Bravo.
L'autre
bravo,
Nadia.
Mille fois.
Je suis fière de d'avoir le
bravo
même prénom.
De Nadia, en fait, hein. Est-ce que toutes les Nadias sont aussi badass que les deux que je connais ou
La chanteuse Nadia qui est pas mal, hein.
Ah ouais.
Qu'en Maroc,
ah ouais. Ça
on
se
lui
trouve,
doit
c'est un bon prénom à donner à vos filles si vous voulez que ça devienne des badass. Hein. Faut noter le plan. Bien, et du coup, on va passer à notre troisième warrior. Et cette fois, c'est toi, Nadia, qui nous la présente.
Oui, j'ai le plaisir de vous présenter le témoignage de Marianne en France et Mariam au Maroc. Oui, la complexité de son histoire se révèle dès l'annonce de ses prénoms. Elle coanime le podcast Mixed Feelings, excusez-moi mon accent anglais à couper au couteau, avec Eve, franco-sénégalaise, qu'elle dédie aux personnes transraciales, phrasianes, afropéens, sénégalois, maghribaptous, je les cite, j'adore cette expression. Bref, celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases. Elle nous raconte dans ce témoignage son histoire et comment elle a su faire le lien entre ses multiples origines.
Donc, moi, je m'appelle Marianne en France et Mariam au Maroc, ou pour ma famille marocaine. Donc, en fait, c'est-à-dire que depuis mon enfance, j'ai grandi avec une double culture. Mais ce qui est intéressant, c'est que mon côté français, mon côté marocain, ne communiquent pas entre eux. Donc ça se traduit un peu par ces deux prénoms. Marianne en France, prénom très français, républicain, et Mariam au Maroc. Et du coup, ça se traduit aussi par deux religions. Mon père, musulman, ma mère, chrétienne. Et j'ai un peu grandi dans un climat de guerre des religions, puisqu'ils sont, ils sont séparés donc depuis longtemps. Et la religion, c'est un peu un enjeu, un grand enjeu identitaire pour l'un et pour l'autre. Donc, cette schizophrénie, longtemps, elle m'a donné l'impression d'être le résultat de quelque chose d'un peu absurde, quelque chose qui n'aurait pas dû exister. Puisque en France, finalement, je parlais pas de mon identité marocaine, même si ça se voit. Mais dans ma famille française, on n'en parle pas vraiment. Mais je sentais que j'étais différente, en fait. Physiquement, par mon nom de famille, enfin voilà, ça se voit, quoi. Et au Maroc, pareil, c'est tu es une vraie Marocaine. Voilà, donc vraiment l'impression d'être quelque chose d'absurde, de pas être moi en fait. Et quand j'ai dit à mon père récemment que j'étais en couple avec un Français, ça a jeté un froid. Donc là, grosse crise. Donc voilà, tout ça a fait que je me suis dit peut-être qu'il est plus simple de ne pas vivre en France. Donc je suis partie à l'étranger, en Angleterre. Je me suis dit, quitte à être une étrangère, autant être une étrangère dans un pays finalement qui n'est pas le mien. Par la force des choses, j'ai dû rentrer en France en fait, enfin voilà, pour des problèmes personnels. Et aujourd'hui, je me rends compte qu'on vient tous de plusieurs endroits, que l'identité, elle n'est pas figée comme on veut nous le faire croire, qu'on a tous des ancêtres qui viennent des quatre coins de la planète. J'ai fait il n'y a pas longtemps un test ADN, j'ai vu que j'avais des ancêtres apparemment en Italie. Enfin voilà, au final, l'Afrique du Nord, c'est une terre de mélange. La France est une terre de mélange, donc on ne devrait pas voir l'identité comme quelque chose de figé. Donc j'assume aujourd'hui mes deux identités. J'ai envie de les faire communiquer entre elles. Et je me sens prête, en fait, à assumer. En fait, je l'assume déjà, mon côté marocain en France, mais aussi d'assumer au Maroc voilà, que je vis en France et que ça fait partie de mon histoire aussi.
Bravo Marianne.
Merci beaucoup. Marianne. Ouais. Chokran Maryam. Il était important pour moi ce témoignage car il est vraiment sur la thématique de l'identité, de comment tu te construis et comment tu gères. Elle parle de conflits de religion entre ses parents qui ont divorcé, elle parle de ses deux pays, de ses deux prénoms. Elle, ça va même dans son prénom, quoi. C'est incroyable. Et c'est important pour moi de montrer de quelle manière ça peut tellement te déstabiliser dès l'enfance, en fait, d'avoir ces deux cultures qui ne communiquent pas, qu'on ne valorise pas en France. Et rien que le fait qu'elle quitte la France, ça veut tout dire. Ça montre aussi qu'il y a un problème en France.
Ah oui.
Parce que j'ai parlé avec plein de personnes qui ont fait le choix, justement, de quitter ce pays. Et moi-même, j'y ai pensé parce que je me suis rendu compte que les stéréotypes qu'on associe aux femmes d'origine nord-africaine, ils n'existent pas dans les autres pays. Mmh. On ne va même pas deviner que je suis nord-africaine si je pars, je pense, en Amérique du Sud ou je ne sais où, parce qu'en France, il y a un vrai problème avec ce passé colonial, clairement. Et c'est beau, cette façon de partir pour mieux se construire, pour mieux revenir. Je la trouve assez inspirante dans son témoignage.
Oui, c'est très inspirant. Moi, à la fois, je trouve ça dramatique parce que je me dis, c'est encore... Et ça, c'est un truc qu'on a dit dans tous les épisodes. Hein, c'est encore à elle de s'évacuer, quoi.
Ouais.
Et ça, à force, j'arrive plus à voir ça comme une bonne nouvelle. Mais du moment, qu'elle est bien, moi, c'est tout ce qui m'importe. Mais c'est vrai que c'est tellement structurel, etc.
Moi, je ne la vois pas comme s'évacuer. Je la vois plutôt comme penser à elle et être libre. Peut-être que c'est parce que je suis concernée que je le ressens comme ça, mais je sais que c'est difficile de partir. Enfin, moi, j'ai raconté mon histoire dans un épisode que j'ai consacré à mes parents et je parle un peu de tout ça, du fait que mes parents aient quitté leur pays d'origine, que ma mère, on ait mal orthographié son prénom, du coup, elle a elle aussi deux prénoms pour d'autres raisons. Enfin, de tout ça, du déchirement, du fait de se retrouver entre deux pays et le fait que ouais, elle se soit choisie son propre pays,
oui, du coup, ouais.
De redémarrer sa propre histoire, de sa manière, de choisir son compagnon, malgré l'avis de son père qui lui-même, comme tu disais pendant qu'on écoutait le témoignage, lui il s'est bien marié avec une personne blanche, ou en tout cas une relation avec une personne blanche et chrétienne. Donc ouais, moi je le vois plutôt comme un côté positif, même si ça peut paraître dur de ton point de vue, et je le comprends. Je la trouve quand même assez badass.
C'est pas dur, parce qu'après, moi, évidemment, je respecte toutes les décisions, et que, du moment qu'elle est bien, moi, tout me va. C'est vrai que quand c'était là, sur les 40 épisodes qu'on a fait dans Yes, que souvent, à partir d'une problématique, elle est tellement grande, elle nous dépasse tellement, en fait, que souvent, la seule solution pour qu'on puisse s'épanouir, justement, c'est de s'en aller. Donc, c'est une excellente décision. C'est juste un constat qui revient sur plein, plein de sujets. Je me dis, on est quand même constamment, nous, en train de se mettre ailleurs pour aller mieux.
C'est vrai que c'est fatigant de devoir débattre.
On dirait que c'est impossible d'aller bien là où on est, en fait.
Bah, c'est
là
comme, où on comme ça rejoint la démission de Sophia tout
à
l'heure.
Exactement. Hein.
En tout cas, elle est revenue, Marianne. Donc,
voilà. Et peut-être qu'elle repartira, va savoir, la vie est passionnante. En tout cas, ouais, bravo à elle. C'est vrai que ça doit vraiment pas être simple. Quoi. Et puis surtout quand tu es entouré de gens pour qui, eux, c'est très simple. Ils sont définis de base, vu qu'ils sont les universels, les blancs en français. Ça doit être hyper compliqué.
Surtout qu'elle est française au Maroc, elle est marocaine en France, elle a deux prénoms. Enfin, t'imagines le va-et-vient constant.
Et ça, c'est un retour que j'ai eu de beaucoup, beaucoup de mes copines, justement, quand j'étais ado. À chaque fois qu'il y avait le moment d'aller au bled l'été, elles me racontaient ce qui se passait sur le bateau. C'est souvent un temps un peu long où il y a plein de jeunes et tout. Et elle me disait qu'un jour, en plein milieu du trajet, un jeune s'est élevé. Elle m'a dit « Voilà notre nation ». Elles étaient tunisiennes.
Wow.
« Voilà notre nation. En France, on n'est pas français. En Tunisie, on n'est pas tunisien. » Et j'avais vraiment ressenti ça. C'est vraiment comment se construire une identité là-dedans quand t'es rejeté ou que t'as
des deux côtés.
Ouais, c'est hyper compliqué. Donc bravo justement d'arriver à penser l'espace où tu pourras être bien et comment tu pourras toi te définir et pas laisser les autres te définir.
C'est pour ça que je parlais de thérapie. Hein. On crée nos moyens de communication, nos médias, parce que justement on a besoin de nos pays et on crée ces petites nations un peu partout et par livre, par podcast, par médias et Marianne en fait partie.
C'est vrai que chaque projet est une micronation avec son propre projet.
C'est ça.
Elsa, c'est de quoi on parle ?
Oui. Zazemistan.
Bien, bah, du coup, on va passer à notre prochaine warrior, Marguerite. Cette fois, tu nous présentes Nassera.
Oui, Nassera, c'est une femme politique marseillaise, donc Nassera Ben Marni. Si vous voulez la chercher dans l'organigramme de la mairie de Marseille. Elle est adjointe au maire chargée des espaces verts et de la nature en ville. Et ça fait 20 ans qu'elle milite au Parti Socialiste. En tant que femme musulmane issue de la diversité, comme on
elle
dit.
Elle fait des très grands guillemets avec ses bras.
Oui, voilà. Oui, il faut le dire. Voilà. Et merci de les faire, vraiment.
C'est pas tous les jours facile pour elle. On l'écoute.
Je me confronte à toutes les difficultés que rencontrent les femmes en politique ou au travail, c'est-à-dire de prendre sa place juste parce qu'on a des compétences et pas attendre qu'on veuille bien nous donner la place. Voilà.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on te dit, des phrases qui reviennent souvent ?
Bon, il y a des phrases, mais il y a surtout des postures. On est assigné à des tâches, on est assigné à des territoires de travail, on est... beaucoup plus naturellement, quoi. S'il y a des thématiques qui sont abordées sur l'immigration, sur la misère, on te regarde comme si tu étais né avec cette compétence. Quand il y a le... Oui, voilà, un partage de secteurs à travailler, on pense plus particulièrement à toi pour aller dans les secteurs les plus difficiles ou ceux sur lesquels il y a plus de gens issus d'immigration. Voilà, donc c'est une assignation identitaire. Et on est en tout cas, moi, je suis à chaque fois obligée de rappeler que j'ai des compétences générales et que, non pas que je suis bonne partout, mais ça me permet de pouvoir travailler partout. Quand on pense à quelqu'un qui a mon profil, d'abord, c'est pour aller en terre de mission, puisque les secteurs faciles, on se les garde parce qu'on est fils d'eux, parce qu'on est le copain d'eux, et puis parce que comme on s'appelle, j'en sais rien, mais enfin comme Jean-Marie le Gaulois, eh bien, il y a des endroits où on nous attendra plus volontiers. Et lorsqu'on s'appelle Fatima Ben Couscous, eh bien, forcément, c'est d'autres secteurs géographiques de la ville où il faut aller. Donc oui, c'est plus long parce qu'il faut bousculer, parce qu'on n'accepte pas et que du coup on est identifié comme ayant mauvais caractère ou personne avec qui c'est difficile à travailler, agressive, parce que du coup l'agression c'est nous quand on cherche à comprendre en disant mais il n'y a pas un problème dans votre guide de lecture, etc. Ah ben du coup, oh là là, elle cherche toujours à comprendre, oh là là, elle n'est jamais contente, oh là là, c'est compliqué de travailler avec elle. Non, c'est pas compliqué de travailler avec moi. Il suffit juste que les choses soient équitables, logiques, normales. J'ai travaillé longtemps pour une personne qui un jour découvre que j'ai des compétences en droit de nationalité, droit des étrangers, organisation d'événements culturels. Mais où tu as appris tout ça? Mais en fait, c'est tout simplement des acquis professionnels, puisque j'ai fait ça tout le temps. Donc, je lui dis, mais parce qu'en fait, finalement, quand tu me demandes de venir rejoindre ton équipe, c'est parce que toi, tu as une lecture de territoire, tu n'as pas une lecture de compétences. Et ils ne se rendent même pas compte que ça, c'est violent pour moi, l'entendre, quoi. On met un an et demi, finalement, c'est... Tu te dis, finalement, il n'avait pas regardé mon CV. Parce qu'il l'avait vu, il aurait vu que j'ai 10 ans d'expérience sur le droit des étrangers, droit à la nationalité. Évidemment, je le prends mal. Et, ah, mais je t'ai rien dit, pourquoi tu réagis comme ça? C'est ça, tout le temps, cette réponse. Et ça, le plus lassant, c'est ça, quoi. C'est d'être tout le temps, non pas à se justifier, mais encore à avoir à faire ses preuves, quoi. Après, j'ai 58 ans, donc je suis plutôt en fin de carrière professionnelle. Et d'être encore en train de dire, mais j'ai fait ça, ah bon, tu écoutes ce genre de musique, enfin, ce sont des choses énormes. Tu croises une camarade élue aux sorties du conservatoire, qu'est-ce que tu fous là? Ben, la même chose que toi, tu vois, il y a mon petit, on sort d'un cours de saxophone. Ah bon? Donc évidemment, je suis un peu brutale dans ma réponse. D'après toi, qu'est-ce qu'on fout au conservatoire? Je ne suis pas venue faire le ménage au conservatoire. La même chose que toi, j'accompagne mon gosse. Ah mais ça finit, après, dans le camp dira-t-on, oh là là, je l'ai croisée au conservatoire, elle m'a agressée. Voilà. Il y a du boulot.
Et donc là, aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à d'autres femmes?
On est femme, on est citoyenne. Eh bien, certes, on n'est pas gauloise. On a une autre identité qui nous a construit, qui nous permet de construire notre vie de femme, d'épouse, de mère de famille. Et je dirais à chaque fois, ne vous laissez pas enfermer dans une case. Formez-vous tout le temps. N'ayez peur de rien. Parce que je vais vous dire, quand on les croise au quotidien, ils sont pas très bons, finalement. Enfin, on nous enferme dans un truc où tu as le must en face de toi, la compétence en face de toi. Puis finalement, quand tu viens rejoindre des équipes, tu te dis, c'est pas terrible. Il n'y a rien de bien effrayant. Tu prends de l'assurance d'en année parce que tu te dis, finalement, c'est ça. Voilà. Donc allez-y, n'ayez peur de rien. Et je crois que si ces cercles-là se cooptent, se parrainent, ferment les portes derrière eux, c'est parce qu'eux, ils manquent de confiance, ils n'ont pas les compétences. Donc vous, vous les avez, nous, on les a, il faut y aller, il ne faut pas avoir... Nos parents, ils ont tout laissé, ils ont franchi la mer. Ils sont arrivés dans un pays dont ils ne maîtrisaient ni les codes, ni l'écriture, ni le langage, ni les habitudes. Et ils ont fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. Donc on peut juste mieux faire que nos parents, on n'a rien à perdre.
Waouh, j'ai envie d'applaudir, quoi.
Nassera, mère de Marseille.
Je vote Nassera. C'est bon.
Moi, j'avais elle comme mairesse du coup de Marseille.
Oui, oui. Waouh.
Bon, faudra qu'on discute politique, mais en tout cas, là, oui. Ce qui est annoncé, ça me va.
Hein. Un beau programme et un défilé de punchline. Ouais, pour le dire.
Exactement.
Parce que Jean-Marie Le Gaulois.
Elle est trop forte.
Elle a eu le temps de s'entraîner, en fait. Imaginez les réunions au Parti Socialiste. Je pense que.
Elle doit être blindée.
Wow. Il y a énormément de choses sur lesquelles on aurait envie de rebondir sur son témoignage, mais moi, ce que j'ai envie de noter, c'est la similitude en fait entre les mécanismes du sexisme et du racisme, parce qu'en fait, ce qu'elle décrit sur l'assignation à être l'élu des quartiers difficiles de l'immigration, c'est la même chose en fait qui se passe pour les femmes en politique aussi, où souvent dans les mairies, dans les départements, il y a des compétences comme l'économie, le budget, tout ça qui sont réservées aux hommes, qui sont voilà des compétences qui sont censées vu comme plus importante.
Alors et voilà,
et on va les réserver aux femmes, on va les mettre à la petite enfance ou à la culture parce qu'on imagine que c'est moins important alors que
moins prestigieux.
Voilà, c'est moins prestigieux en tout cas alors que c'est évidemment tout aussi important. Donc je trouve ça toujours intéressant de rappeler que toutes ces oppressions là fonctionnent de la même manière
et s'internourrissent
s'internourrissent et voilà qu'on est comme Nassera ou comme toi Nadia à l'intersection comme on dit de plusieurs oppressions, bah c'est d'autant plus difficile quoi. Et ce qu'on dit aussi sur la lame, elle est tout le temps vénère machin,
ça c'est ce que je retiens aussi du témoignage.
Voilà, c'est ça, on le dit sur les femmes racisées, mais c'est ce qu'on dit des femmes aussi quand on y pense parce que nous c'est vrai que les micro-agressions qu'on reçoit tout le temps, un homme qui va nous dire un truc dans la rue, ah tu es belle,
toi, c'est peut-être la 12e fois que tu vas le dire, et du coup, tu vas t'énerver. Oh là là, mais pas la peine de s'énerver, c'était juste un compliment. Ouais. Bah, voilà, ce que raconte Nacera, c'est un peu la même chose. C'est qu'à chaque fois, il faut qu'elle se justifie, machin. Donc, au bout d'un moment, t'en as marre de répondre patiemment. Tu le fais une fois, deux fois, trois fois. Et après, bah, juste.
Et puis, les gens se rendent pas compte que c'est vraiment ce qu'ils disent, l'agression. Toi, tu reçois des micro-agressions constamment, et si t'as le malheur de réagir. C'est fini, c'est toi l'agresseuse.
Exactement.
Ça, c'est un truc qui est une profonde injustice. Et c'est juste si les autres percutaient que ce qu'ils disent est agressif. Tu vois, enfin, peut-être qu'on arrivera à changer de paradigme, mais j'ai peu de foi là-dessus quand même.
Ouais, c'est même pas forcément ce qu'ils disent, mais juste le fait qu'ils le disent. À quel moment j'ai demandé ton avis, quoi. Enfin, tu vois, dans la rue, le mec il dit que t'es belle. Oui, c'est gentil, t'es belle. Mais pourquoi tu juges mon corps?
Pense-le.
Déjà, à la base, ça va pas du tout.
Ouais. Faut encore le rappeler, hein, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein. On le rappelle, on y est encore.
On s'épuise, mais bon. C'est vrai qu'on est de plus en plus nombreuses et nombreux.
Et voilà, ce que j'aime beaucoup aussi, c'est cet appel à ne pas s'auto-censurer, parce que finalement, en face, ils sont pas. Voilà, c'est pas les.
Ça vole pas très haut.
Voilà, c'est pas les dieux qu'on imagine.
On se rend compte qu'en fait, bon, bah, y a pas trop de level, en fait. Hein, ils sont pas hyper compétents. J'adore.
Mais ça, il faut le dire. Hein, ouais. Il faut le dire, parce qu'effectivement, il y a plein de dieux qui impressionnent de l'extérieur. Et quand tu rentres dedans, t'es là. Ah, mais c'est des bras cassés. De ouf, en fait. Genre, vraiment.
C'est la fragilité du machin qui fait la carapace, en fait.
Mais ce qu'elle rappelle à la fin, c'est super important, parce qu'elle rappelle que la plupart des parents des personnes dont elle parle sont des personnes qui ont traversé la Méditerranée, qui étaient pauvres, etc. Et qui avaient peut-être pas lire, pas écrire, qui connaissait pas le français. Et elle le dit de façon valorisée, en fait. Elle dit, t'imagines, ils sont venus de là et tout ce qu'ils ont fait, tout ce qu'ils ont réussi à faire, comme ils sont super forts, comme ils sont géniaux. Et c'est tellement bien d'entendre ça, parce que c'est pas du tout ce que j'ai entendu dans mon enfance. Moi, on n'a pas parlé de ma famille ou des personnes qui ont immigré de cette manière. Donc juste rappeler ça, rappeler que ouais, on est super fort, et que tu sois femme de ménage ou dans la politique ou n'importe quoi, c'est déjà incroyable ce que tu fais, que tu fais 10 fois plus pour en plus te faire insulter et qu'on te dise que tu parles trop fort, mais non, juste continue effectivement à parler et vraiment emmerde-les, parce que t'es beaucoup plus forte qu'eux.
Ils n'auront pas ta peau.
Non.
Voilà. Ni ton moral, d'ailleurs.
Jamais. Vive Nacera.
Bien, et on va passer maintenant à Fatima, et c'est toi, Elsa, qui nous la présente.
Oui, alors Fatima Zahra, elle va nous parler de tiraillement et de loyauté identitaire.
Alors, je suis franco-marocaine et j'ai grandi entre les deux pays. D'un côté comme de l'autre, on a toujours essayé de diviser mon identité et de me faire choisir un camp. On a eu de cesse de me répéter que je peux pas être les deux à la fois. Donc c'est un peu comme si tu regardais un match de foot. En gros, ici c'est Paris ou ici c'est Casa. Tu vois, désolé, tu peux pas soutenir les deux équipes. Donc d'un côté, on a les Français qui voulaient absolument me faire entrer dans le moule de l'assimilation, et les Marocains qui voulaient pour beaucoup m'entendre dire mais moi je suis 100% marocaine dans toutes mes dimensions, rouge et vert, c'est le sang qui coule dans mes veines, aucune autre identité peut exister, etc. Et je me sentais souvent obligée de satisfaire les besoins et les demandes des uns et des autres, alors que finalement, enfin, j'y croyais pas nécessairement moi-même, ou plutôt je voyais pas vraiment l'intérêt. Et le truc, en fait, c'est quand j'ai réalisé il y a quelques années, finalement, il y a pas si longtemps que ça, c'est qu'en fait, je suis amazigh jusqu'à la moelle. Je suis marocaine, je suis musulmane, je suis française, je suis parisienne, je suis casablancaise. Et voilà, et tout ça, c'est mon identité, et je n'ai absolument pas à choisir. Je n'ai absolument pas à hiérarchiser non plus. Et en fait, toutes ces identités sont chacune à 100% vivantes en moi. Et c'est sûr que c'est pas très mathématique, mais je vous jure que ça fonctionne pas mal. Et en fait, finalement, ma réponse à ces gens-là, c'est que ni ma vie, ni mon identité ne sont des équations. Donc, arrêtez de chercher l'inconnu.
Ah, j'adore.
Bien parfait.
Ça, c'est une belle punchline aussi.
C'est pas mal, hein. Ouais. J'adore. Et son témoignage, ça m'a fait penser à mon père qui est métis et à qui on a demandé toute son enfance. Pareil, quelle équipe de foot il choisirait? Mais c'est quoi votre délire avec le foot?
Mais j'ai l'impression que c'est une question qu'on pose souvent aux personnes qui ont plusieurs cultures.
Ou, mais s'il y avait une guerre, tu irais de quel côté? T'es là, non mais laissez-moi tranquille en
qui
fait.
Qui dit que je me battrais pour un des deux pays déjà.
Ouais, voilà. Et du coup, je trouve ça génial comment elle a énuméré un peu tous les aspects de son identité. Et du coup, je voulais vous proposer qu'on fasse cet exercice, nous.
Wow. Allez.
Et qu'on liste des identités comme elle l'a fait. Alors, je vais commencer. Alors, évidemment, c'est liste non exhaustive. Hein. Vous dites ce qui vous passe par la tête. Moi, j'ai noté femme, féministe, franco-mauritanienne, décoloniale, ex-parisienne, néo-marseillaise, bobo, intello, islamo-gauchiste, végétarienne, privilégiée, youtubeuse depuis peu. Je vous invite à découvrir ma chaîne YouTube, les Zémistans d'ailleurs. Et je pourrais ajouter en fait plein d'autres choses à cette liste, c'est-à-dire qu'en fait, toutes mes expériences et mon histoire et ma famille et les endroits où j'ai vécu, etc., bah, font de moi la somme de tout ce que je suis. Et on ne peut pas me réduire à un seul aspect de tout ça. Ça n'aurait aucun sens en fait. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Anaïs, toi, tu te définirais comment du coup ?
Ah ben, y en a pas mal en commun avec toi, femme française, islamo-gauchiste, etc., tout ça, féministe de merde, hystérique radicale.
Voilà, là, je crois qu'on est toutes les quatre d'accord.
Oui, totalement.
Vrai sudiste, en tout cas en France, quoi, du sud-est. Mais je sais pas, la question, c'est vrai qu'il faudrait se pencher dessus,
pas
parce
facile,
que du coup, moi, j'ai tout le loisir de pas m'être posé la question, en fait. Hein.
Ouais, j'y pense souvent quand j'écoute Kif Taras, parce qu'elle pose tout le temps la question au début.
Comment tu t'identifies ?
Et c'est super difficile, parce que moi, je sais pas, je dirais femme, sensible... franco-marocaine, optimiste, pessimiste.
Ok.
Ça, on me l'a dit souvent, créatrice de ponts. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire. Mais après, je suis pas du tout patriote. Du coup, le côté pays. Enfin, tu vois, je dis franco-marocaine alors qu'officiellement, je suis française dans mes papiers. Mais quand tu es née de parents étrangers, tu n'es français que à ta majorité. Donc, j'ai été marocaine toute ma vie. J'ai eu une carte de séjour alors que j'avais. Enfin, je n'étais pas du tout marocaine. Enfin, j'étais pas née au Maroc ni quoi que ce soit. Donc, cette question de pays, moi, ça me marque pas. Je préfère plus m'identifier avec mes émotions, avec mes échanges avec les gens.
Oui, et je pense qu'on a le droit tous de choisir comment on veut se définir. Et ça, c'est hyper important aussi.
Je crois que c'est l'essence du féminisme.
Exactement.
Carrément. Ouais. Et toi, Marga ?
C'est à mon tour.
Tu n'allais pas y échapper.
Voilà, donc d'abord, oui, je suis une femme. C'est le premier truc, comme vous toutes, auquel je pense. Alors, et ensuite, j'ai une double identité, vraiment. Non, n'importe quoi. Je suis à la fois bretonne, mais bretonne du côté de la crêpe de Belle-Noire, pas du côté de la galette saucisse. Comprendront
ceux qui t'entendent.
Celles et ceux qui comprendront.
J'aime bien que tu te réfères en nourriture,
voilà, je vous expliquerai plus tard. Mais aussi marseillaise, voilà. Journaliste. Allez, je me lance. Future maman.
Je suis trop émue, je suis trop contente.
C'est le scoop de l'épisode.
Exactement.
Chamé. Et vous qui nous écoutez, faites l'exercice. N'hésitez pas à nous dire sur les réseaux si vous voulez partager ça avec nous. Et en tout cas, ne laissez personne vous définir à votre place, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je retiens et que je trouve vraiment très, très important.
Et on peut utiliser autant de mots qu'on veut.
Voilà, exactement.
Ça peut être tout à fait complexe, l'identité. Et surtout pas binaire, sinon c'est très vite chiant en fait. Hein. N'essayez pas l'identité simple et unique. Bien, alors merci pour cet exercice. Du coup, maintenant j'ai d'autres mots qui me viennent.
Ouais,
je me
moi
dis,
aussi,
ça va
c'est frustrant là.
Ça va me venir plus tard. J'étais là, j'ai oublié créative quand même.
Ah bah oui,
créative.
Voilà.
C'est vrai ça.
Il y en a plein d'autres qui vont me revenir, je t'écrirai des WhatsApp au fur et à mesure.
C'est ça.
Bien, et du coup, autre grande nouvelle du mois, hein, c'est le retour de la rubrique Warrior du mois.
Mais ça faisait pas genre 3000 ans qu'on l'avait pas faite, celle-là.
C'est la rubrique la plus aléatoire du monde. Des fois, on la fait, des fois, on la fait pas. Bon, personne n'a râlé jusqu'ici, donc on continue comme ça.
Mais je crois qu'en fait, t'as lu un truc qui t'a fait grave plaisir et t'avais trop envie de le partager avec tout le monde, en fait.
On a un truc à fêter, là.
Carrément. En plus, j'ai pu pas y tâcher, je peux même pas le partager là-dessus, donc je suis un peu deg, donc je le partage avec vous. Ce mois-ci, du coup, on partage une super bonne nouvelle. Et si t'as pas suivi l'histoire, t'as plein de lectures à rattraper. Mais sache que depuis 23 mois, je dis bien 23 mois, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles à Paris se mobilisent. 23 mois de mobilisation dans 8 mois de grève et 14 de chômage partiel, c'est géant. Elles se mobilisent donc pour dénoncer leurs conditions de travail et demander des améliorations. Parmi leurs revendications, il y a un allègement de la cadence, puisqu'il leur était quand même imposé, écoutez bien, de faire une chambre entière en moins de 15 minutes.
What?
Donc ça comprend passer l'aspirateur, changer les draps, nettoyer la salle de bain, etc. Et tu répètes ça je ne sais pas combien de fois dans une journée, en speed total et absolu. Bref, t'imagines la charge de stress. Donc elles dénonçaient aussi la précarité de leur contrat. Évidemment, ça s'est attendu, un salaire extrêmement bas. Et donc elles sont en grève depuis l'été 2019. Et non, elles n'ont rien lâché, malgré les difficultés. difficulté et l'hyper précarité dans lesquelles ça les a plongés. Et c'est là qu'arrive enfin la bonne nouvelle, parce que tu dois l'attendre. Elles ont gagné. Leurs contrats sont requalifiés en CDI, donc des contrats à durée indéterminée. Elles ont obtenu entre 250 et 500 euros d'augmentation salariale, une prime de repas, l'augmentation des effectifs de l'équipe, la baisse de leur cadence. Bon, la baisse de la cadence, c'est genre, au lieu de 3 chambres par heure, pour 3 chambres et demie par heure, il n'y en a plus que 3. Bon, mais elles avancent pas après pas. En tout cas, je sais qu'elles considèrent que c'est des vraies victoires. Après 23 mois de mobilisation, ça force quand même l'admiration, déjà, quel que soit le résultat. Mais quand, en plus, ça finit sur une si belle victoire, là, c'est le pied intégral. Et on sait que ça va contraindre aussi d'autres enseignes à s'aligner, ou en tout cas être plus vigilants. Ça va coller un peu la pression à tous ceux qui exploitent des travailleuses précaires, souvent étrangères, on le sait. Donc, ce n'est pas la première mobilisation de ce type. Il y en avait déjà eu en 2018. Et chacune d'entre elles, en tout cas, apporte beaucoup d'espoir. Donc là, c'est la phrase que je retiens de toutes les interviews que j'ai lues d'elles. On a gagné notre dignité. Ce sont leurs mots. C'est quand même ahurissant qu'en 2021, on doive encore aller la conquérir. Mais heureusement, tous les héros ne portent pas de cape. Il y en a plein qui portent des gants de ménage et un tablier.
Oui.
Bravo, bravo.
Bravo, mesdames.
C'est quelle mobilisation. Une statue en leur nom, quand même.
Ah, mais quelle endurance, t'imagines. 23 mois. Enfin, moi, j'en reviens pas. Donc voilà, une fois de temps en temps, comme ça, il y a des bonnes victoires, t'imagines. Mais elles auraient tellement pu baisser les bras 1000 fois en 23 mois. Elles ne l'ont pas fait et ça paye. 1000 bravos. Vous avez toute mon admiration éternelle.
J'ose même pas imaginer ce à quoi elles ont dû être confrontées, les remarques, les insultes.
Et puis les médias aussi qui les ont traînées dans la boue. Vraiment une violence financière, morale, physique aussi, parce que c'est un boulot qui t'abîme énormément. Et qu'en plus, on te méprise alors que tu demandes juste à travailler dans des conditions saines, viables en fait, parce que là, c'est juste pas viable ce rythme-là. Enfin voilà, donc elles n'ont pas réussi une revendication, elles n'ont pas réussi à l'avoir. Elles voulaient être intégrées à l'intérieur de l'hôtel Ibis, puisqu'elles travaillent pour du coup un sous-traitant. Finalement, ce n'est pas encore le cas, mais vu que les tarifs ont augmenté, la boîte en fait gagnerait à les intégrer, à les salarier directement. Donc elles ont espoir que ça crée, que ce point-là de la mobilisation finalement se produise un peu plus tard. Donc bravo, voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, juste je suis méga, méga, méga impressionnée par ce collectif.
Trop fière.
Et j'espère que ça donnera le courage à d'autres peut-être de se lancer aussi dans la bagarre. Bravissimo, quoi.
Mais les mecs, ils attendent quand même 23 mois pour lâcher l'affaire.
Le level de mépris.
Est-ce qu'on peut parler de l'autre côté, tu vois, du truc
Ces gens arrivent à dormir le soir.
Waouh.
Et on rappelle que sans elles, ils ne seraient rien, ces gens-là. C'est ça qui est incroyable, c'est qu'on méprise des femmes sur qui repose tout l'hôtel.
Ouais.
This is capitalisme.
Voilà. On en revient toujours au même problème.
C'est ça.
Donc, je crois qu'il est temps de...
De tout brûler.
Voilà.
On est toujours d'accord. Bon, bah après cette bonne nouvelle qui fait du bien malgré le sujet qui énerve profondément, on va passer à la rubrique self-care.
Je ne connaissais pas le générique. Je n'ai pas suivi.
On n'en a toujours pas. D'accord. Ça fait 3 ans qu'on fait un tutu.
C'est mieux que M6 quand même.
Voilà.
Ah, totalement.
Beaucoup plus calé, on sent des professionnels. Et du coup, Marga, c'est toi qui nous en parles.
Allez, ouais, bah je lance le sujet en fait. Ouais. Parce que finalement, on a décidé, pour se faire du bien ce mois-ci, de vous partager chacune une ou plusieurs références de livres, films, musiques qui nous font du bien dans le thème, en fait, pour histoire de mettre en avant des femmes racisées nord-africaines. Allez, moi, je commence avec un livre. Alors, j'ai un peu réfléchi à plein de trucs et le truc qui m'est vraiment venu, je sais pas, là, d'un coup, c'est un livre qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais adolescent, enfin, une série de 4 livres, en fait, qui s'appelle 4 sœurs et qui a été écrit par une autrice de livres jeunesse qui s'appelle Malika Ferjouk et qui m'avait beaucoup, beaucoup marqué à l'époque, en fait. C'est l'histoire... contrairement au titre du livre, de 5 sœurs, les 5 sœurs Verdelaine, qui sont orphelines et qui vivent en fait élevées par la plus grande des sœurs et qui est ressortie récemment. En fait, j'en parle parce que je l'ai vu très récemment chez une amie qui l'a acheté pour sa fille en BD et c'est ressorti en BD et j'ai relu un petit peu quelques extraits. C'était un petit peu ma Madeleine de Proust, comme on dit, mon retour en enfance. Enfin, donc j'avais vraiment très envie de vous parler de ce livre à offrir aux ados, pré-ados autour de vous. Voilà. Et toi, Elsa, est-ce que tu as quelque chose à nous recommander ?
Bah, moi, je suis très série et j'étais justement en train de me dire que autant il y a Rami qui est donc un mec d'origine palestinienne, si je dis pas de bêtises, américain, qui a fait une série assez cool, mais en fait des femmes.
d'origine, on va dire MENA, donc Maghreb, Moyen-Orient, qui font ce genre de choses. J'ai l'impression vraiment, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Vraiment Netflix, allô, ou tous les autres, là, il va falloir s'y mettre. Et du coup, bah, j'ai envie de recommander un podcast que j'avais trop kiffé l'année dernière de Leïla Israr, qui s'appelle Tarab, qui était sur Binge Audio, où elle aborde plein de questions. Tu connais Nadia, ouais, c'est super. Un peu le plus ou moins la même thématique, genre identité maghrébine en France, et c'est assez historique aussi. Elle invite vraiment des experts sur plein de sujets, notamment sur le féminisme islamique aussi, etc. Trop, trop, trop intéressant. Et enfin, il n'y a pas vraiment de timing. Enfin, on peut complètement l'écouter 5 ans après. Je pense qu'il n'a pas vieilli, quoi. Donc, voilà. Et j'attends les séries, quoi. Parce que franchement, enfin, séries, films. Je sais pas si vous en avez, mais franchement, moi,
ouais, là, maintenant, je me pose la question. Je me dis, putain.
Ce qui est triste, c'est que c'est sûr qu'il y en a, mais qui sont pas valorisés ou pas acceptés par les boîtes de prod. Ça. Et c'est ça le problème. Ça. C'est qu'il y a plein de projets, il y a plein de gens. Voilà, il y a plein de choses intéressantes, mais on se dit que ça va pas marcher. Et puis, tant que c'est pas polémique, tant que le personnage ne joue pas tel mec de banlieue ou la meuf, quelqu'un qu'il faut sauver.
Et puis, il y a pas un terroriste à un moment donné,
aussi. Forcément.
Il y a déjà très, très peu de séries réalisées, produites, écrites par des femmes. Enfin, on a l'exemple de. Shonda Rhimes, mais
de base.
Oui, aux États-Unis, il y a quelques Afro-Américaines ces derniers temps. Il y a Issa Rae avec Insecure, il y a Lena Waithe.
J'ai regardé il n'y a pas longtemps, c'est trop bien Insecure.
Ouais, il y a un certain nombre, mais ça reste encore très très minoritaire et voilà quoi. Il y a du boulot.
Nadia, qui c'est qui te fait du bien ?
Beaucoup de femmes nord-africaines. Ce qui est génial avec ce podcast, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir discuter avec beaucoup d'entre elles. Et il y en a une qu'on a en commun, je crois. Moi, j'en ai deux. Moi, je triche parce que voilà, c'est un épisode spécial.
Mais tu commences.
Alors, il y a une femme que j'ai eu la chance d'interviewer dans un épisode. C'est Faïza Guen. Mmh. Je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que Faïza Guen est incroyable, talentueuse, inspirante. Et notamment son livre La Discrétion, dans lequel elle parle de Yamina, qui est son héroïne, et de ses filles qui, chacune à leur manière, symbolisent les luttes qu'on fait en étant une femme nord-africaine ou en étant une femme tout court. Et en fait, ce qui m'a marquée chez cette personne, en plus de son talent, c'est sa gentillesse et sa bienveillance, et l'échange que j'ai eu avec elle m'a vraiment marquée. Elle est d'une humanité... qui m'a vraiment touchée en plein cœur et elle m'a fait du bien, elle m'a donné du courage, elle est là depuis longtemps. Et ce qu'on se disait hors antenne, c'est qu'elle est jeune, mais elle est là depuis le début, avant qu'il y ait toute cette déferlante, et j'en suis très heureuse, de personnes non blanches qui font des choses qui ont du succès. Mais voilà, vraiment, merci Faïza pour ce que tu as fait pour nous. Ça nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. Et en autre personne, une rencontre que j'ai faite à Marseille, qui est une femme musulmane qui porte un foulard, mais pas que, parce qu'il faut arrêter d'essentialiser les gens, et on en a beaucoup parlé pendant cet épisode, c'est Elka Imani, qui est illustratrice, artiste, autrice, et elle vient de sortir un livre avec Élise Saint-Julien, qui s'appelle « Musulmane du monde, à la rencontre de femmes inspirantes », qui est d'ailleurs édité chez Face Cachée Édition, qui a d'ailleurs comme fondatrice encore une femme nord-africaine, Wafa Mamesh, donc décidément plein de femmes talentueuses. On dit qu'il n'y en a pas, mais si, il y en a beaucoup.
Elles sont là. Faut laisser la place. Voilà, faut juste bien savoir
coup,
où regarder.
Voilà, mais du coup, on prend la place et qu'autre on nous la donne pas.
Non,
donc
mais c'est
très
bien.
On vient. Et dans ce livre Musulmane du monde, les deux autrices ont décidé de mettre en avant des femmes musulmanes qu'on a oubliées dans l'histoire parce qu'elles ont marqué l'histoire avec des choses incroyables. Il y en a encore qui sont vivantes d'ailleurs, donc elles sont encore là. Et on a malheureusement, on parlait tout à l'heure de femmes effacées de l'histoire, mais les femmes non blanches, c'est encore pire. Donc merci à elles pour représenter, parce que les jeunes filles et même les jeunes hommes d'origine nord-africaine n'ont pas forcément d'exemple dans la littérature, et tu parlais de littérature jeunesse aussi. Donc voilà, c'est en montrant les représentations positives qu'on fera avancer les choses. Donc merci à toutes ces femmes pour leurs travaux.
Clairement. Et moi, du coup, dans mes modèles, en tout cas sur ces sujets-là, clairement, Sarah Zouak, qu'on a reçue lors de l'épisode sur les grandes écoles, qui a notamment, enfin là où on s'est, le moment où on s'est rencontrés, elle et moi, c'est quand elle était en plein dans son Women Sense Tour, où justement elle a tourné un documentaire génial. Elle est allée à la rencontre de plein de femmes dans plein de pays musulmans, de plein de femmes qui font le féminisme, qui font les mobilisations, les solidarités. Donc ça a été vraiment, moi j'ai vu que l'épisode sur le Maroc, mais il y a un épisode par pays, c'est vraiment un taf énorme. Et c'est suite à ce tournage-là qu'elle a ouvert l'association LALAB, donc qui est à l'heure actuelle, en tout cas à mes yeux, la référence en termes de mobilisation contre le sexisme et l'islamophobie, association féministe et antiraciste à la fois, qui d'ailleurs organise un festival cet été. Et puis secondement, bah pareil, du coup, Faïs Aghen, moi j'ai lu à peu près tous ses bouquins, mais le premier sur lequel je suis tombée, c'est Millennium Blues. Et là, vraiment, je suis tombée des nues en lisant ce roman, parce que c'était la première fois que je lisais un roman qui représentait vraiment mon époque. C'est vraiment quand on est né dans les années 80 et qu'on a grandi dans les années 90, on reconnaît tout, on reconnaît nos potes, on reconnaît les décors, on reconnaît les problématiques, les actualités, etc. Et donc j'ai trouvé ça d'une humanité folle. Et c'est la première fois que je me suis dit que j'aurais pu être figurante de ce roman. Si ça se trouve, je suis passée quelque part, j'ai traversé la rue dans une des scènes. Et ça, c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Donc derrière, j'ai bingé tous ces livres après.
Mais j'adore que ça te parle sans que ça touche un thème qui est seulement pour les Nord-Africaines. Tu vois, tu es pas du tout une personne d'origine nord-africaine et ça t'a parlé. Et j'aime beaucoup ça parce que j'ai tendance à avoir des exemples de personnes qui... par exemple, un exemple très précis. La dernière fois, j'ai acheté un livre de Amin Malouf et il était dans la catégorie Maghreb. Mmh. J'étais là, mais what? Il ne parle pas de ça, il parle d'identité, donc ça pourrait être toi, n'importe qui. Et on a tendance, encore une fois, à essentialiser. Et là, tu vois, c'est Faïs Aghen, qui est une autrice d'origine nord-africaine, mais elle n'est pas que ça. Mmh. Et elle t'a parlé parce qu'elle parle de ta génération et que tu as eu l'impression d'être figurante de son livre.
Bah justement, elle décrit la France telle que moi je l'ai vue quand j'étais gamine. Et pas la France que les politiciens me décrivent à l'heure actuelle, quoi. Donc du coup, pour moi, j'ai ouvert le bouquin, je me suis sentie chez moi.
Donc on a encore une fois croisé les identités et on a montré que c'était beaucoup plus complexe que ce qu'on voulait nous faire croire.
Tout à fait.
Et c'est surtout qu'on n'est pas obligé d'écrire sur son identité, en fait. On peut être une femme d'origine marocaine, par exemple, et écrire sur toute autre chose, fait. Enfin, il y a aucune... Enfin, j'ai l'impression que quand même, on enferme. Enfin, c'est ce que disaient pas mal des femmes qui ont témoigné aujourd'hui. En fait, on t'enferme, en fait, dans une case où forcément, tu vas parler de religion, d'immigration, de quartier populaire, machin. Tu vas parler que de ça. Alors qu'en fait, non, tu es très aussi bien ta grande dit à Brest et tu fais du basket et le week-end t'aimes aller faire de l'escalade je sais pas où, enfin, et t'as pas du tout envie de parler de ces autres sujets qui ne t'intéressent pas forcément plus que ça, quoi.
Donc, je pense que c'est quelque chose de s'y autoriser, parce que c'est vrai que quand on est dans une situation, dans une vie de femme nord-africaine, etc., quand on vit en tout cas une ou plusieurs oppressions, finalement, souvent, on choisit pas de s'engager. On s'engage parce qu'il faut survivre aux violences gratuites qu'on se prend. Et du coup, je pense que c'est vraiment difficile quand on vit ce genre de vie-là, de s'autoriser à être créative, à produire du contenu sur d'autres sujets, à ouvrir la voie justement sur d'autres thématiques. Parce qu'il y a d'abord une urgence et une nécessité de produire là-dessus. Donc, je pense que même à titre individuel, c'est une vraie performance aussi de se décaler de soi comme ça. Et je pense que les écrivaines et écrivains, ça fait partie de leur exercice, hein,
Mais encore une fois, ça a l'air d'être un privilège d'homme blanc, en fait, de pouvoir écrire sur tout, au final.
Oui, c'est vrai.
Parce que eux, ils s'empêchent pas d'écrire, par contre, sur les femmes, sur la colonisation, sur tout ça. Enfin, ils peuvent parler de tout, quoi. Ouais, alors que quand...
Ah oui, vu qu'ils sont neutres.
Ouais. Voilà, exactement. Ils sont le neutre, donc ils peuvent parler de tout. Alors que quand on est une femme, et a fortiori une femme racisée, forcément, on a un chemin tracé un peu dans la création. Réduisent. Voilà.
En tout cas, bravo à toutes et tous qui œuvraient justement pour aller dans l'autre sens, c'est-à-dire le bon sens,
merci,
le sens où on aurait, dans lequel on aurait toujours dû aller, bordel. Pourquoi hein ? Bref. Et voilà, donc c'est déjà la fin de cet épisode spécial Warrior Nord-Africaine. On espère que ça t'a inspiré et que ça t'a donné la pêche. Merci Nadia d'avoir fait cet épisode avec nous. Bonne continuation sur tout, et pas seulement Nana, mais sur la vie en général. D'ailleurs, toi qui nous écoutes, je sais pas ce que tu fais là après, mais si t'as déjà bingé Yes, tu tiens ton prochain programme podcast préféré tout désigné. Nerna, NA3, on le répète. On remercie également nos warriors. Merci donc à Nassera, Nadia, Marianne, Fatima et Sophia. Merci beaucoup d'avoir partagé avec nous vos luttes, vos résistances, vos réussites et vos énergies. Je sais déjà que vos mots vont aider beaucoup de personnes qui pourront se reconnaître dans vos parcours. Et dans le prochain épisode, on parlera de vous. Ce sera le dernier de la saison et pour l'occasion, on aimerait savoir, toi qui as écouté tous nos épisodes, quel est le témoignage qui t'a le plus marqué et pourquoi ? On s'est dit que ça pourrait être cool de faire un épisode un peu spécial pour que les warriors qui ont témoigné se rendent compte de l'impact qu'elles et ils ont eu sur d'autres personnes. Alors si tu as en tête une warrior, une ou un warrior qui t'a particulièrement inspiré, fait rire, qui t'a donné une idée de génie, n'hésite pas à nous écrire ou à nous envoyer directement un audio à warriors@yespodcast.fr. Typiquement, si t'as déjà utilisé une réplique que t'as découverte dans Yes, dis-nous, on veut tout savoir, ça nous régale. Et si tu veux participer à d'autres épisodes, bah, tu peux suivre Yes Podcast avec toujours 3 S sur Instagram, Twitter et Facebook et tu seras informé des prochains appels à témoignages. On se retrouve ici et ailleurs très bientôt, mais d'ici là, n'oublie pas, aucune case n'est assez grande pour toi. Tu es multiple, complexe, souveraine de ton corps et de ta vie. Partout, tu es à ta place et chaque fois que tu la prends, tu l'autorises à toutes les suivantes. Tu te relèves et nous élèves, tu traces ta route, mais aussi la nôtre. Bref, meuf, t'es le warrior.
Yes! Longue vie à Yes!